Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme chaque lundi, je vous retrouve dans Radio Foot et j'en suis absolument ravi. On va débuter la semaine ensemble en beauté, célébrer un nouvel envol pour le tout-puissant Mazembe. Les corbeaux au sommet de l'Afrique, mais pas forcément les corbeaux auxquels on pense spontanément. Les corbeaux d'âme ont remporté la Ligue des Champions ou des Championnes, c'est selon, un succès important pour le TP Mazembe, pour le football congolais et pour l'Afrique subsaharienne francophone. Dans son ensemble, direction Lubumbashi, dans quelques instants, on va accueillir les héroïnes congolaises, direction également le Maroc, vous allez vite comprendre pourquoi. Nous entendrons aussi les héros de Radio Foot. Les héros consultants, Marc Libra nous parlera de l'OM qui va peut-être un petit peu mieux. Bonjour Marc.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Oui, oui, bah ça va, tout se passe bien.
C'est un peu cubiste hein, la saison de l'OM pour l'instant.
C'est de l'abstraction pour
histoire
moi.
De faire voir de l'abstraction si on parle
exactement,
tactique.
Exactement.
Et surtout si on vous emmène sur des terrains qui vous plaisent particulièrement en ce moment, à savoir l'art moderne, mais c'est peut-être des sujets à garder pour d'autres émissions. Neymar Mondial, lui, fêtera l'anniversaire de son voisin lillois. 80 bougies, une victoire, un nouveau match sans défaite, avant peut-être de briller à nouveau en Ligue des Champions. Bonjour Neymar.
Salut Hugo, salut à tous.
Quant à Sheriff Gaymour, il nous dira qui de Van Dijk, Salah ou Trent Alexander-Arnold doit être absolument prolongé par Liverpool. Bonjour Sheriff.
Bonjour Hugo, pour parler de l'OM, je parlerai de pointillisme.
De pointillisme, c'est intéressant. C'est autre chose d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue tactique, ça se tient, ça
vrai,
se tient aussi. Bon, écoutez, Roberto De Zerbi sera ravi de savoir qu'il vous inspire autant de références stylistiques.
Et puisqu'on parle de références, sachez que je vous passe à tous le bonjour de notre auditeur Oumarceau, fidèle auditeur sénégalais qui nous écoute comme toujours.
Eh bien écoutez,
salut Oumar.
On le salue, salut Oumar, et puis j'espère que ce Radio Foot vous plaira. J'ajoute tout de même que certains héros n'ont pas de micro, ceux de Radio Foot qui œuvrent en coulisses et qui brillent en coulisses par exemple, Pierre-Olivier Guérin, ainsi bien sûr que le maestro Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
TP Mazembe rule in Morocco. The Ravens have soared to their first ever CAF Women's Champions League crown. They have beaten the 2022 champions AS FAR in El Jadida.
L'exploit des Corbeaux d'âme pour débuter la semaine, la joie de leurs supporters et supportrices, la victoire des toutes puissantes joueuses du tout puissant Mazembe. Alors pour vous situer un peu le décor et le contexte, ce sont normalement les Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns ou encore les Marocaines de la AS FAR, adversaires justement de Mazembe samedi en finale de la Ligue des Champions et qui avaient en plus l'avantage de jouer à domicile. Ce sont normalement ces deux clubs qui dominent la plus belle des compétitions continentales chez les dames, hein, qui n'en est qu'à sa quatrième édition, qui s'est pourtant bel et bien refermée sur le succès de Mazembe 1-0 ce samedi au Maroc. Donc le tout puissant Mazembe a déjà remporté la Ligue des Champions, on le sait, à 5 reprises chez les hommes. C'est son premier sacre en termes de football féminin. C'est son premier titre de champion d'Afrique, tout genre confondu, depuis 2015. Le premier titre continental d'un club de l'Afrique subsaharienne francophone, tout genre confondu, depuis 2015. Et puis la première victoire d'un club de cette Afrique subsaharienne francophone dans une Coupe d'Afrique, tout genre confondu. Là encore, depuis 2017, et c'était également une victoire du TP Mazembe, mais en Coupe de la Confédération. Bref, vous l'aurez compris, oui, Sheriff Gaymour.
Hugo, il faut rappeler, hein, c'est un club qui a été fondé en 2020, c'est un club très très récent.
Vous voulez dire la section féminine ?
La section féminine,
puisque comme je viens de le rappeler, le puissant Mazembe a une énorme histoire,
sûr,
et il était le dernier club d'Afrique subsaharienne francophone à faire briller cette partie de l'Afrique sur le plan continental chez les hommes. Sauf que les clubs d'Afrique du Nord et d'Afrique du Sud, comme en football féminin, avaient pris le dessus. Donc on comprend que ce succès des Corbeaux d'âme est un événement à plus d'un titre. Bonjour Pascal Mwangala, à Lubumbashi.
Bonjour Hugo Moissonnier, bonjour à tous.
Notre
bonjour.
Correspondant à Lubumbashi, Pascal Mangala, simplement pour savoir si les joueuses du tout-puissant Mazembe sont revenues chez elles à Lubumbashi, est-ce qu'elles ont été accueillies comme il se doit?
Bien sûr, il y a eu le célèbre groupe d'animation des 100% qui était à l'aéroport bien avant. C'est vrai, c'est pas toujours évident avec une compagnie congolaise de respecter le temps. Il était initialement prévu qu'elles arriveraient à 14h TU, soit 16h à Lubumbashi, mais c'est à 17h passé de 10 à 15 minutes qu'elles ont finalement atterri à Lubumbashi. Et donc la patience aura été un peu longue pour les supporters qui voulaient bien palper du doigt le trophée remporté par ces filles de Mazembe. Et donc, un engouement, oui, mais aussi sous la menace de pluie, parce que pour l'instant, il pleuvine déjà sur Lubumbashi, côté entrée de la ville et à l'aéroport. Et donc, malgré ça, les supporters étaient là et les filles sont en train, pour l'instant, de faire quelques artères de Lubumbashi pour bien sûr présenter ce trophée.
Donc on réalise que c'est un événement du côté de Lubumbashi, on prend ça pas du tout à la légère, non, ce succès en Ligue des Champions féminines. Il paraît qu'il y avait un peu de musique pour les accueillir. Je crois qu'on l'entend justement à l'appareil, magie de la radio. Ouais, belle ambiance hein, que vous avez captée avec votre micro, mon cher Pascal Mwangala. On le rappelle, pour le tout-puissant Mazembe, il y a eu un petit déclassement sportif. C'était vraiment le grand club de l'Afrique subsaharienne francophone. Et chez les hommes, et les dames relèvent le club de Lubumbashi. On peut dire ça comme ça?
Et bien sûr, c'est intervenu au bon moment, parce que c'est vrai, l'équipe masculine de Mazembe n'a pas cessé d'être au centre de beaucoup de polémiques, surtout après une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. On s'attendait à mieux, mais le début de saison a été plutôt caractérisé par les départs massifs des joueurs de Mazembe vers le Maghreb, et ce qui poussait à plusieurs interrogations. Est-ce que c'est le pouvoir économique, est-ce que c'est l'attraction vers l'Afrique du Nord, c'est parce que les joueurs veulent un peu plus de challenge? Bien, beaucoup de questions qui se posaient. Mazembe interdit d'enregistrer les nouvelles recrues parce qu'il y a eu des dossiers qui n'ont pas été assez bien gérés au niveau des départs des joueurs étrangers qui arrivaient pour évoluer au club. Et donc ce trophée de Mazembe au féminin vient un tout petit peu déjà répondre à certaines questions, que Mazembe reste le tout puissant, mais aussi que les filles, ce trophée peut un tout petit peu arrêter les spéculations ou cette polémique autour du pouvoir économique de Mazembe finalement, parce que ça prouve que ce n'est pas ça. Hein, les filles de Mazembe, elles viennent d'Afrique du Sud, du Ghana, de Côte d'Ivoire, de l'Angola, d'un peu partout en Afrique. Et donc, ce n'est pas un problème du pouvoir économique, mais peut-être des joueurs qui voulaient changer d'environnement, qui voulaient aller voir ailleurs, et que ces problèmes aussi d'ordre administratif qui ont un peu impacté les vestiaires et même le terrain de Mazembe, peut-être que ces filles vont finalement, ou ce trophée va finalement permettre à Mazembe, même au masculin, de rebondir dans cette Ligue des Champions dont la phase de groupe commence dans 24 heures.
C'est tout ce qu'on souhaite aux supporters du tout-puissant Mazembe. C'est tout ce qu'on vous souhaite également, Pascal Mangala. On va vous laisser travailler, on va vous laisser nous raconter dans d'autres rendez-vous sur l'antenne de RFI la joie de tout un club après le sacre donc de ces championnes en Ligue des Championnes africaine. Et justement, l'une de ces championnes, elle est avec nous, mais pas en direct de la République démocratique du Congo, plutôt en direct de son pays à elle, où elle s'est imposée, mais non pas pour ce pays, plutôt pour Mazembe. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça va être clair d'ici quelques instants. Lamia Boumedi est avec nous, la coach marocaine du tout-puissant Mazembe. Bonjour Lamia.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Merci de l'avoir honoré et de l'avoir accepté. Lamia, ancienne joueuse internationale marocaine, vous avez même été sélectionneuse intérimaire du Maroc avant l'arrivée de Reynald Pedros en 2020. Donc vous étiez encore au Maroc il n'y a pas si longtemps. Vous y êtes retournée ce week-end au Maroc à El Jadida, mais pour jouer un bien mauvais tour à l'AS Far, le grand club du royaume chérifien de votre pays. Vous avez offert à Mazembe, au tout-puissant Mazembe, une joie exceptionnelle. Comment vous vous sentez? Vous réalisez que vous avez créé l'exploit?
Tout d'abord, je suis très, très contente de remporter la Champions League avec le tout-puissant Mazembe. Vraiment, c'est un grand club, un grand très professionnel avec le président Muiz et la présidence du football féminin, Madame Diniz, qui était toujours avec moi. Je suis vraiment très, très contente et surtout de gagner la coupe ici dans mon pays, le Maroc.
Chérif Guémour et Naïm Moniol, nos chroniqueurs, ont des questions à vous poser. Lamia, Chérif Guémour d'abord.
Oui, bonjour Lamia, félicitations. Comment vous expliquez le fait que vous ayez pu rebondir après la défaite contre la SFAR en poule, 3-1, et finalement cette victoire 1-0 en finale?
Alors, la première, d'abord, tout d'abord, merci. la première défaite, c'était une grande leçon pour nous. Mm-hmm. Et c'est grâce à cette défaite qu'on a remporté la coupe, parce qu'on a bien analysé le premier match, on a bien compris pourquoi on a perdu, parce qu'on a trouvé que Asfar, ils sont très forts dans les balles arrêtées. Parce qu'on a encaissé 3 buts, c'était 3 balles arrêtées. Mm-hmm. Donc, j'ai parlé avec mes joueuses. Je leur ai dit que la première des choses, c'est éviter de commettre des coups francs dans notre camp. Parce qu'Asfar sont très forts dans les balles arrêtées. Et la deuxième chose, même s'il y a, un coup franc, j'ai nommé le nom. Qui est le nom des joueuses qui vont faire le marquage à la joueuse à Sana El Msoudi, qui était la joueuse clé de Asfar. Donc, on a bien analysé la première défaite.
Lamia Boumedi, Naïm Moniol voulait également vous poser une petite question.
Oui, bonjour coach, félicitations pour le titre. Cette victoire, elle vient couronner le renouveau du foot féminin en RDC, de plus en plus d'équipes jouent le jeu du foot féminin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui est en train de se faire au pays? Pourquoi d'abord ce choix d'aller entraîner en République démocratique du Congo alors que vous pourriez avoir à votre charge une équipe au Maghreb?
Bon, tout d'abord, avant d'aller au Congo, je travaillais ici avec la DTN, avec la Direction Technique Nationale du Maroc. J'ai entraîné l'équipe I17, l'équipe I20, et j'étais aussi la responsable de projet sport-études. Mm-hmm. Mais je ne voulais pas rester dans ma zone de confort ici au Maroc. Je voulais prendre le risque, je voulais chercher un nouveau défi, un nouveau challenge. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller entraîner le TP Mazembe.
Et Lamia Boumedi, vous étiez donc une des actrices du football féminin au Maroc, un pays modèle avec l'Afrique du Sud, donc en club comme en sélection, des pays qui ont progressé à la vitesse de la lumière en ce qui concerne le football féminin, qui se sont notamment affrontés en finale de la dernière CAN, qui trustent aussi les titres en Ligue des Champions. Est-ce que ce que vous voyez en RDC au niveau du développement du football féminin, ça vous rappelle ce que vous avez vu se faire au Maroc ?
Malheureusement, le Maroc a fait un changement radical dans le développement du football féminin avec l'arrivée du président de la fédération Fozil Kja. Vraiment, il y a un grand progrès et tout le monde après ça en Afrique après ça comme un modèle. Mais malheureusement, en RDC, on n'a pas encore un championnat. On joue juste des championnats. Zonal, il n'y a pas un championnat national. Là-bas au Congo, il y a le TP Mazembe dans un niveau, il y a les autres clubs dans notre niveau.
Vous êtes un peu seul comme grande équipe.
Exactement, exactement. Et on a, avant d'aller à la Champions League, on n'a pas encore, jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé le championnat, mais on a préparé juste avec des matchs amicaux contre les garçons. Soit on joue avec les U15, soit avec les U17, ça dépend à l'objectif de match.
Donc il y a encore une marge de progression. Naïm Moniol, un dernier mot pour Lamia Boumedi.
Oui Lamia, j'aurais aimé s'il vous plaît que vous nous touchiez un petit mot sur deux de vos joueuses, la joueuse angolaise Lacho et sur l'internationale congolaise Merveille Kanjinma s'il vous plaît, qui ont toutes les deux brillé dans cette compétition. Vous qui les côtoyez au plus près évidemment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elles?
Pour merveille, bon, c'est une joueuse bosseuse, une joueuse très, très, très rapide et qui va encore progresser parce qu'elle a des talents. Il va arriver, j'en suis sûre qu'elle va jouer dans les grands groupes, dans les grandes équipes au futur. Et l'autre joueuse, c'est qui?
La Chaux.
La chou, c'est.
L'Angolaise, Flora, je ne sais plus son nom, Flora. Elle a marqué en demi-finale. La Chaux.
Bon, en tout cas, on a compris. Bah, Lamia Boumedi.
Il y a beaucoup de noms. Hein.
Lamia Boumedi, vous ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous félicite à nouveau pour votre résultat, votre exploit et ce succès en Ligue des Champions qui vraiment redonne beaucoup de fierté et au niveau des hommes comme des femmes au championnat congolais, au football congolais et à l'Afrique subsaharienne francophone. Voilà, la Ligue des Champions, d'un côté comme de l'autre, elle est souvent trustée par les clubs d'Afrique du Nord ou bien les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Et donc, vous avez apporté fait souffler un vent de fraîcheur sur le football africain et un vent de fraîcheur sur cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous aviez des craintes par rapport à votre niveau de français. Il était excellent et merci beaucoup pour cette interview passionnante, Lamia Boumedi. Et on vous souhaite de bien fêter cette victoire congolaise en terre marocaine, bah au Maroc, chez vous tout de même, avec vos proches. J'espère qu'ils sont contents pour vous également. Et on va maintenant, pour conclure ce joli chapitre, cette jolie ouverture de semaine et d'émission pour Radio Foot, donner la parole à nos auditeurs. Les notes vocales sur le WhatsApp de Radio Foot, c'est la tradition du lundi. Et priorité donc à la République démocratique du Congo après le sacre des corbeaux d'âme de Mazembe.
Bonjour Radio Foot International, Salomon Mwinginlu depuis Kinshasa. Je félicite la fierté nationale, qui est le tout puissant Mazembe, avec sa structure féminine, d'avoir gagné la coupe. Je veux regretter de ne pas voir parmi les champions une joueuse gagner un trophée individuel, mais sinon c'est bon vraiment, bonne chance et bonne continuation.
C'est Mika depuis Kinshasa. Premièrement, c'est un fruit du travail, de la persévérance et surtout de la détermination. Félicitations à toute l'équipe. Qu'ils aillent encore à l'avant.
Je suis Nouditi Bay Archidic Théodore de N'Djamena au Tchad. Pour moi, c'est le résultat de mérite de FC. Mazembe joue très bien, même la version féminine a prouvé combien de fois tout puissant Mazembe est toujours tout puissant.
Moi, c'est Norbert depuis la ville de Bukavu en RDC. Moi, je pense que Mazembe, c'est déjà une grande équipe en Afrique, que ce soit en version féminine ou masculine. Tout cela, c'est grâce à son homme fort, Moïse Katumbi.
C'est M. Nsenda depuis Kinshasa, la ville province de la RDC. Alors, je suis là pour féliciter d'abord notre équipe, le tout puissant Mazembe, pour ce sacre qui définit une fois de plus la suprématie de cette équipe, d'abord sur le plan international et aussi sur le plan continental. C'est un nom qui est beaucoup craint sur le plan continental. Et coup de chapeau au président, également à tous les dirigeants de cette équipe.
C'est Mamoudou Diallo depuis Mbou au Sénégal. Vraiment félicitations aux filles qui ont joué le final le samedi passé.
Ici Oumar Barrow depuis le Sénégal. Mille félicitations au TP Mazembe section féminine. Tout le mérite revient à l'entraîneur marocaine Lamia Boumedi, qui est arrivée au club en 2023 et est en train d'abattre un travail colossal. Félicitations à elle et à toute l'équipe. Bonne émission à tous.
Moi, c'est Katia Lumière, précisément à Lubumbashi, le fief de tout puissant Mazembe Dam. Je félicite le TP Mazembe Dam de nous avoir remporté la Ligue des Champions Femmes face à l'AS Far Rabat.
Et félicitations à Pierre-Olivier Guérin et à Laurent Salerno qui ont compilé ces messages d'auditeurs. Si vous voulez donner votre avis, j'ai dit qui ça? Laurent Salerno.
Oui, ça.
On connaît les membres de notre équipe, mon cher Daïm, ne soyez pas facétieux. Laurent Salerno, Pierre-Olivier Guérin, le mix auditeur, c'est tous les lundis dans Radio Foot. Le numéro sur WhatsApp pour envoyer vos notes vocales, il est sur notre page Facebook, bien sûr. Keep my crowds loud inside a beast, I deserve it all. More money, more power, more freedom, everything heaven allowed us. C'est cadré! Le guerrier danois qui vient faire exploser le parquage marseillais et tout le banc marseillais qui est debout
Quelle frappe! Quel missile! L'OM met 3-1! Et c'est fait! L'OM s'est racheté! L'OM est allé chercher cette victoire capitale pour la suite du championnat!
On pourrait même dire que Marseille se relance à Lens.
Oui.
Succès 3-1 dans le Nord chez les 100 et Or. 12e journée de Ligue 1. Il fallait se relancer après la trêve pour les Phocéens. Un club qui galère, l'Olympique de Marseille, surtout à la maison, qui a plus de facilité à l'extérieur. Et donc, c'était le cas au stade Félix Bollaert ce week-end. Un club tout de même, l'Olympique de Marseille, qui avait été vraiment humilié chez lui au Vélodrome 3-1 par Auxerre. Est-ce que vous êtes rassuré, Marc Libra, vous le Marseillais de Radio Foot?
Non, mais rassuré, quand l'Olympique de Marseille s'impose, on peut être que rassuré. Après, sur le contenu, sur l'ensemble de la rencontre, ils ont fait le job, c'est tout. Je crois qu'il est toujours Sampaoli,
de Zerbi.
Sampaoli de retour en Ligue 1.
Mais oui, non, mais c'est pour ça.
Donc c'est ça, les fantômes du passé remontent, mais il n'est plus sur le banc de l'OM. De Zerbi.
De Zerbi est toujours, je pense, en adaptation. Il doit s'acclimater à ses joueurs. Ses joueurs doivent aussi s'imprégner de son jeu. Et puis voilà, ça ne me fait pas rêver, mais pour l'instant, écoutez.
Oui, mais alors justement, finalement, vous dites qu'il faut s'adapter à son jeu, et vous dites que ça ne fait pas rêver dans la même phrase. Moi, j'avais compris qu'il était censé nous faire rêver.
Qu'on soit bien sérieux, si que je vois la première période, je me dis peut-être qu'il y a 3 ou 4 à 0, les 3-0 pour Lens, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Il y a une frappe de Mopé à la 40e qui est seule, qui manque le 4, qui a d'ailleurs été très bon. Mopé est un très bon joueur. Et puis après, sur la seconde période, c'est un dépassement de fonction de Rongier, encore un travail de Mopé qui va décaler. Mais autrement, c'est difficile. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas constants. Ils n'arrivent pas de la première à la 96e. Ce n'est pas constant du tout.
Rongier, qui était l'ancien capitaine ou cadre du vestiaire, un peu mis au placard par Deserbi, et qui revient
en blessure.
Il ne semblait pas vraiment être dans ses plans.
Bah non, puisqu'il a dépanné latéral droit dans l'axe. Il a joué partout. Là, on l'a un peu remis à son poste. Et finalement, ça fonctionne.
Mais donc, Deserbi, en gros, il arrive, il doit tout révolutionner et faire jouer l'OM comme jamais, peut-être depuis Bielsa, et puis finalement il joue avec Rongier, c'est pas si plaisant à regarder. Sur cette histoire, Naïm Meunier,
je sais pas qui a dit qu'il allait tout révolutionner, mais pour révolutionner il faut des joueurs qui
c'était la grande star du mercato.
C'est ce qui est annoncé, vous avez raison, c'est ce qu'on nous a vendu,
mais ça l'est toujours quand t'es Marseille et que tu fais venir Deserbi. C'est plus qu'un très bon recrutement. Après, il faut lui mettre les joueurs pour qu'il puisse mettre son jeu en place. Je crois pas que les joueurs de l'OM correspondent tous, je dis bien tous, à son style. Cette victoire de Lens, c'est pas une victoire du jeu. Marc a raison, c'était très mauvais en première période, c'est n'importe quoi, mais c'est au moins la victoire du cœur. Et du cœur, c'est peut-être un peu ce qu'a manqué à Marseille sur les dernières semaines. Je parle pas du match contre Paris parce que ça c'est une parenthèse, mais regardez Angers, regardez Reims, regardez Auxerre. Donc c'est une très bonne chose ce qui s'est passé. C'est une victoire qui va relancer un petit peu des joueurs, qui va relancer notamment Luis Enrique, qui va faire du bien à Merlin. Le contenu n'a pas été fou, mais c'est 3 points. Et ils sont importants puisque Monaco a gagné, puisque Lille a gagné. Voilà, ça maintient l'OM dans cette escarcelle. Maintenant, on en attend, pas moins. Je rappelle ce que je dis quasiment chaque fois que je parle de l'OM. Il y a un match par semaine, il n'y a pas d'Europe et il y a un recrutement qui est bien au-dessus du standing du club. Donc si aujourd'hui, on en est à se dire, on n'a pas battu Lens après avoir perdu Auxerre et Angers, à un moment donné, il va falloir se demander ce que fait cette équipe à ce niveau. Donc c'est une très bonne chose. Non mais il faut pas penser.
Juste rappeler qu'elle est troisième au classement, parce qu'on a l'impression que le tableau est sombre, mais au classement.
Non,
ça
le tableau n'est pas sombre, simplement que sur les dernières semaines, t'as fait nul à domicile contre Reims, nul à domicile contre Angers, que t'as pris une tarte par le PSG, que t'as pris une tarte par Auxerre. Donc évidemment, t'es troisième, c'est très bien, mais à un moment donné, tu regardes ce qui se passe sur le dernier mois. Je le redis, à un match par semaine avec l'effectif que tu as, quand bien même t'es troisième au final, ta dynamique n'est pas bonne. C'est très bien. Maintenant, si tu dis Deserbi, il va nous faire jouer jusqu'à la fin de saison, on va voir ce qu'on va voir, on va aller concurrencer machin, battre ceci, faire cela.
Non, tu peux pas
non
aujourd'hui.
Ça n'arrivera pas cette année. Non. Ça qu'est-ce n'arrivera pas cette année.
Qu'est-ce qui fait rire Chérif Guémour?
Non, mais la médiocrité de la L1 profite grandement à cet OM, qui n'est pas extraordinaire. Alors je suis d'accord avec Naïm, quand on connaît les bases du jeu de Deserbi, c'est-à-dire comment on part d'en bas avec un jeu assez léché. Je ne pense pas qu'il ait les joueurs derrière pour faire ça. Pour commencer, je veux dire, pour lancer le jeu, enfin faire des lancements de jeu. Il y a beaucoup de joueurs inconstants. Il y a un miracle, Rabiot qui est parachuté, qui est international quand même. Hojbjerg qui fait beaucoup de bien. Pour le reste, je trouve ça moyen. Mason Greenwood, il est en intermittence. Je pense que, par contre, comme disait Marc Libra, très très important, quand un entraîneur étranger débarque en L1, il met un sacré temps à se familiariser avec ce championnat très particulier. très physique, très athlétique.
Vous venez de dire qu'il n'était pas terrible. Mais... Vous avez même dit médiocre.
Ah non, mais tous les entraîneurs étrangers qui débarquent en L1, en général, ils arrivent avec des préjugés et ils prennent deux baffes dans la gueule quand ils découvrent la réalité de notre championnat. Bah c'est un championnat très très dur.
Ils découvrent que le ballon n'est pas la priorité du jeu. C'est tout ça.
Entre autres, il y a le côté athlétique et puis ensuite.
On revient à la contradiction de tout à l'heure. Bah, moi, il me semblait que De Zerbi, c'était plutôt un entraîneur qui faisait jouer au ballon ses équipes.
Déjà, il faut avoir les joueurs, il faut avoir la culture du pays quand on y débarque. La culture de l'OM qui est en déshérence totale depuis plusieurs saisons. Donc, il y a un immense boulot à faire. Et heureusement, alors là, je reviens à ce que je disais au départ, par rapport à la médiocrité du championnat de L1.
Il a du temps, ça lui donne du temps, c'est ça,
ça lui
de
donne
la marche.
Du temps. Et puis voilà, il y a les grosses équipes qu'on attend. Bon, bah, Lyon n'est pas à l'heure, Rennes n'est pas à l'heure, Lens n'est pas à l'heure, Nice n'est pas à l'heure.
Il y a guère Monaco et PSG qui. Voilà. Monaco et peut-être Lille, on en parle juste après. Marc Libra.
Mais justement, quand il signe, c'est vrai qu'on nous explique, bon, ben c'est quand même que ça solo et Brighton, hein, mais on nous dit que non, mais c'est du très très haut niveau. Alors, mes camarades l'ont dit, il faut avoir les joueurs pour. Après, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de s'adapter? Parce que, à part voir Balerdi qui balance des longs ballons, c'est pas De Zerbi, c'est pas les latéraux comme on l'a vu jouer, mais aujourd'hui, est-ce qu'il possède dans son effectif, on parle souvent ou on oublie souvent de parler dans le football français d'intelligence de jeu. Et je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas l'intelligence tactique de De Zerbi. Et ça va créer, je pense, petit problème. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il est obligé de mettre, je prends l'exemple de Kondogbia, qui est à son poste en 6 ou en 8, un petit peu plus haut. À Strasbourg, il le met central parce qu'il a tellement peur. Ils ont des centraux qui ne fonctionnent pas, ou alors on met Rongier face à Angers, il me semble, on met Rongier latéral droit. Mm-hmm. Donc on a tellement peur, on se dit, et il doit se dire peut-être que sont peut-être plus habitués à évoluer dans un système, et peut-être qu'il va devoir mettre de l'eau dans son bain, parce que, comme dit Naïm, en jouant qu'un match par semaine, en 12 rencontres, moi j'ai rien vu. Et l'autre, le dernier cas le plus important, qui moi me crée problème, 5 matchs au Vel, 2 victoires, 2 défaites et un nul.
Oui, c'était la question que j'allais vous poser.
Ça veut dire que c'est impactant. Tu gagnes pas la maison, alors que c'est le stade qui te fait.
Donc ça veut dire que
je veux pas être vulgaire, mais qui te propose les plus grosses jouissances que tu peux trouver footballistiquement. Là, c'est autre chose.
Mais donc ça veut dire que cette victoire. Attendez, Naïm Manel, ça veut dire que cette victoire.
C'était le cas sous Sampaoli, c'était le cas sous Tudor, c'était le cas aussi.
Tudor, il gagnait à la maison.
Tudor
et Sampaoli, c'est plus de 20 points.
C'était
rock'n'roll. Oui, je suis d'accord. Mais les deux, c'est plus de 20 points perdus à domicile.
Simplement, c'est vrai que c'est un petit peu le paradoxe aussi. Il y en a des paradoxes, mais de ce week-end. C'est-à-dire qu'ils gagnent à l'extérieur, mais c'est pas vraiment là qu'on s'inquiétait pour l'OM. On reste toujours en attente de les voir être réguliers à la maison.
Mais ça gagne pas domicile depuis 3-4 ans maintenant. Pourquoi ça gagne pas domicile? Alors que tu n'as jamais les mêmes entraîneurs et pas toujours les mêmes joueurs. Bah parce que le Vélodrome est anxiogène, les supporters pour moi font plus de mal que de bien. Quand on parle d'ambiance, oui, il y a du bruit, très bien. Est-ce que pour autant ce sont des encouragements? Est-ce que ça porte l'équipe? Je ne suis pas sûr. Et puis aujourd'hui, il y a combien de vrais Marseillais à Marseille? Il y a combien de gens qui savent ce que c'est que le Vélodrome, ce qui savent ce que c'est que l'identité marseillaise? Bah finalement pas tellement,
mais c'est donc, pas forcément plus simple. Marc Libra, vous
êtes
vous êtes un Marseillais de naissance, mais vous êtes
il a été formé, il a joué, je pense qu'il
du sud de la France.
Parce que un joueur, même s'il est pas né à Marseille mais qui est né à Toulon ou à Avignon ou ce que tu veux, qui a été au Vélodrome petit, qui a été formé là-bas, qui a joué chez les jeunes, qui a joué en réserve, il sait un peu plus ce que ça représente le Vélodrome que le type qui vient de Manchester, qui a fait un crochet par Retafé, que l'autre qui était à Nice, qui est parti à Brighton à Southampton.
Ou bien il a encore un peu plus de pression, c'est compliqué, c'est
contradictoire.
Mais
ça dépend comment on associe, comment on prend cette pression. Pour moi, je l'ai vécu, elle est fantastique, mais elle est fantastique dans les deux sens. Quand ça va pas, ça va pas.
On rappelle que Jean-Pierre Papin, après tout, il était du Nord. Un peu comme vous, mon cher Naïm Moniol.
Absolument.
Cher Gabon, dernier mot sur...
Oui, deux petits mots rapides. Un bémol sur ce qu'a dit Naïm. En effet, le public peut faire du bien, peut faire du mal. En général, en Coupe d'Europe, le public fait relativement toujours du bien.
Ah, c'est con qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe.
Du coup, et ils ne font pas de Coupe d'Europe.
C'est
dommage.
Ça se joue à pas grand-chose.
Il faut
réhabiliter quand même l'importance du public marseillais. Et la deuxième chose, qui dit jouer à domicile, dit faire le jeu. Je répète, Marseille est une équipe en déshérence depuis plusieurs saisons.
C'est surtout ça.
Donc quand on ne sait pas faire le jeu, on s'expose et puis on se fait trouer comme on s'est fait trouer contre Auxerre.
En début de saison, ils l'ont quand même fait un petit peu, mais à l'extérieur. Donc si tu peux le faire à l'extérieur, tu peux le faire à la maison.
Et l'avantage avec la Ligue 1, c'est que la déshérence, elle vous mène tout de même à la troisième place avec un point d'avance sur Lille. Lille octogénaire, heureux.
Vers
vers Kabela dans la surface de réparation. Kabela vers Jonathan David, le dernier geste de Jonathan David, ça revient vers Gégrova. 1-0 pour Lille, anniversaire réussi. Le buteur Edon Gégrova a permis aux Lillois de fêter comme il se doit leurs 80 ans.
C'est un très bel octogénaire et j'espère que les Dogs vont encore demain être encore plus présents en France et en Europe, et tous ensemble, on est en capacité de faire des grandes choses.
Joyeux anniversaire Olivier Letang, joyeux anniversaire Gervinho, Moussasso, Nicolas Pepe, Enyama, Sofiane Boufal, Victor Osimhen.
Oh, des primes Marc-Vivien Fouet. À
part Moussasso, que des primes Marc-Vivien Fouet. C'est dire les vedettes africaines de l'histoire récente, très récente même. Hein.
Et Philippe Brunel.
Les même pas 15 dernières années du LOSC.
Pas Philippe Brunel, non.
Oui, si, pourquoi pas Philippe
et
Brunel.
Stéphane
Jason Boutoual.
Et Johnny Ecker.
Johnny Ecker.
Hein,
Leclerc, défenseur central.
Johnny Ecker, figurez-vous que je l'avais écrit. J'allais vous faire le clin d'œil.
Eh bah donne-le, monsieur.
Grégory Vimbé.
Voilà. C'est bien, bravo.
D'Amico, bravo. Fernando D'Amico.
D'Amico, Fiar.
Les deux,
aussi à
les deux frères Chéroux.
Grégory Vimbé, oui.
Bruno et Benoît.
Faut vous rappeler.
Balmont, Mavouba, Kabaye, bref. Et là, on n'est que sur les 20 dernières années. Hein. Mais c'est vrai que Lille, qui est remontée en première division en 2001, qui a remporté deux titres de champion, là en 2011, donc 10 ans plus
Merci
tard.
Puel.
Un autre en 2021, 20 ans plus tard, qui a vu passer coach Vahid, Claude Puel, Rudy Garcia ou Christophe Galtier pour l'amener au sommet. Fait partie de ces très bons élèves hein, de la première division française sur les 20 dernières années.
Depuis quelques années, vend très très bien. Regardez le nombre de joueurs qui partent de Lille pour des sommes records. C'est quand même fou. Depuis plusieurs années maintenant, 5-6 ans, tu as eu Pepe, tu as eu Osimhen, tu as eu Lenny Yoro. Tu vas très certainement devant le Chevalier très cher prochainement. C'est un joueur, c'est un club qui travaille très très bien. C'est aussi ça la marque.
Un club
très
qui est quand
clubs.
Même passé par quelques soubresauts, on va dire, d'un point de vue
industriel. Par rapport à une personne.
Oui, Gérard Lopez, l'homme qui coule les clubs, est passé par là.
Il part de très loin, ils sont désendettés depuis cette année, depuis la rentrée.
Et même endetté, moi je trouve qu'il y avait quand même du contenu sur le terrain et ils vendaient très
bien. Ah oui, non, bien sûr.
Et sur ces 20 dernières années, c'est un club qui est passé d'un stade, de plusieurs stades d'ailleurs, à Grimont-Préjoris, le stade de Villeneuve-d'Ascq.
J'ai connu celui-là, moi.
Il fallait le voir pour le croire.
C'était étonnant.
Le stade du coin, vraiment.
De Wascal, c'était Wascal.
Et là maintenant, l'un des stades les plus modernes depuis une dizaine d'années d'Europe.
Ce qui est étonnant, il y a un taux de remplissage plus que satisfaisant quand on connaît la folie des grandeurs que beaucoup de clubs de Hénin ont eu avec des très grands stades.
C'est une terre de foot, hein, plus que Bordeaux.
Non, attends, c'était pas gagné. Non, on passe pas de Grimont-Préjoris à 25, 22 000 de moyenne à 50 000. C'est pas comme ça. Fais pas ça comme ça.
Tu fais parce que non, Lille, c'est,
non,
une, vraie
pas comme ça.
Le Nord, c'est une vraie terre de foot. Hein, je te le
pas
dis.
Pas en France.
En tout cas, si tous les clubs Marc Libra étaient Lille en France, parce qu'il y a aussi des bonnes performances sur le plan européen. Cette saison, on va en parler, mais il y en a eu dans le passé, des victoires contre Manchester United, il y a eu des huitièmes de finale, un huitième de finale de Ligue des Champions, non deux, au moins deux. Voilà, un club qui vraiment fait partie des bons élèves et en plus qui a vraiment servi sur un plateau, j'ai envie de dire, le football africain pour RFI, mais pas que.
Oui, mais si on se réfère si on prend une vingtaine d'années, ils ont sorti des joueurs, ils nous ont fait plaisir, on s'est régalé. Moi, je me rappelle toujours d'Adil Rami avec Rudy Garcia qui faisait le fou sur Canal. Enfin, il s'est passé des choses, ils ont sorti des joueurs, on parlait d'Osimhen, des joueurs hyper importants. Et quand on les voit jouer, et il s'est passé des matchs importants dans ce stade. Parce que quand moi, je joue à Grimont-Préjoris, c'est mon premier match en pro, je joue là-bas en 92, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais aujourd'hui, il y a eu des matchs importants. Quand vous êtes capable de battre certaines grandes équipes chez vous, vous créez quelque chose. Et aujourd'hui, c'est très plaisante. Moi, je suis allé voir des matchs. Franchement, c'est plaisant. Alors, Lens est toujours top aussi. Mais Lille, aujourd'hui, ça devient une place hyper intéressante parce que, comme on l'a dit, ils ont su vendre très bien des joueurs. Ils ont su, quand Galtier revient, on parle souvent de Galtier, il revient, il prend une équipe à la dérive, pas bas. Un an après, on voit ce qui se passe. Donc c'est plaisant. Il faut les suivre.
Regarde les coachs qu'ils ont eu, mine de rien. Puel, il est parti en Angleterre. Fonseca, je vais pas refaire son CV. Galtier, il a quand même entraîné le PSG. Rudy Garcia, il a entraîné la Roma. Enfin, t'as eu des vrais super coachs.
Coach
Vahid Halilhodžić, oui. Vahid Halilhodžić.
Dans les 90, ouais.
Pas la meilleure période, mais bon.
Et c'est lui qui l'a fait remonter quand
il
même.
Il l'a fait remonter.
Vahid,
oui.
Donc il est au point de départ de l'histoire moderne 2001. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave.
Oui,
vous n'êtes pas obligé d'écouter.
Non, mais moi j'ai joué contre Vahid avec
la SCAN. Où ils étaient un peu plus bas.
Exactement. À partir du moment où t'as dit du mal de Johnny Ecker, on a décroché.
Mais non, justement.
Je vais lui dire. Vous savez que je l'appelle, je vais lui dire.
Je lui ai donné l'heure, comme disent les jeunes. Je l'avais mis dans.
Pas Natal contre Parme, Johnny.
Exactement.
On l'embrasse bien
peut-être
fort.
Peut-être le plus grand match de l'histoire européenne de Lille, un tour préliminaire de Ligue des Champions. Et un succès 2-0 à Parme.
Finaliste de la Ligue Europa avec Marseille en 2004, Johnny.
Voilà. Et Jean-Luigi Buffon a donc pris l'un des plus beaux buts de l'histoire de la patte gauche de Johnny Ecker. Voilà.
On l'embrasse. Johnny.
L'ancien club évidemment d'Eden Hazard, le LOSC, le club actuel de Zegrova, puisqu'on parle d'artiste pour fêter les 80 ans. Zegrova buteur justement contre Rennes ce week-end, 12e journée de Ligue 1 et Lille est 4e, donc à un point du 3e l'OM. Lille également brillant en Ligue des Champions avec notamment une victoire contre le Real. La réception de Bologne mercredi, le passé c'est bien, le présent c'est pas mal non plus pour Lille, Chérif Guémour.
Oui, c'est une équipe assez surprenante. On a vu, il y a eu un turnover monstrueux avec les blessés, les suspensions dans toutes les compétitions. Ils ont fait front, ils ont eu des résultats dans les deux compétitions. Il y a des choses vraiment qui m'ont étonné. On était inquiets avant le Real, on était inquiets tous ces matchs de Ligue des Champions. Ils s'en sont très bien tirés. J'ai l'impression paradoxale, que cette équipe de Lille, elle était taillée cette saison pour gagner une Coupe d'Europe. Je pense à l'Europa League, je pense que ça aurait été un excellent
client. Ah oui, mais elle s'est qualifiée pour la Ligue des Champions.
Et ils ont eu le malheur de se qualifier pour la Ligue des Champions et malheureusement, je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. Non, tout ça pour dire que c'est une équipe ultra compétitive qui est bien partie. Bon, a priori, on va attendre, je suis d'accord.
Quatrième, aujourd'hui, ça permet d'être en Ligue des Champions à l'issue de la saison.
Il y a un paradoxe avec Lille, c'est qu'ils sont plus compétitifs en Ligue des Champions en ayant pris trois morceaux qu'en Ligue 1 où ils ont une patte, un style du jeu, mais où les résultats ne sont pas toujours là. Ce sont courants alternatifs.
Ils récupèrent les blessés.
Ouais, voilà, Marc Libra qu'ils ont disputé donc deux tours de qualification pour la Ligue des Champions.
Ouais.
Et qu'ils sont tout de même. Donc ils ont déjà joué beaucoup. Ils sont invaincus depuis, je crois, la mi-septembre. Ouais, toute compétition confondue.
Mais ils le payent aussi. Leur préparation a été presque 10 jours avant les autres. Donc ils le payent au niveau des blessés. Mais
ils sont plus que dans les temps. Là.
Moi, j'étais. C'est vrai que. La réception du Real, j'étais dans l'émission le jour même et c'est vrai que je m'inquiétais par rapport. Mais en fait, quand tu vois l'effectif aujourd'hui, tu dis, t'es très simple, t'as un des meilleurs gardiens en Europe et t'as un des attaquants les plus performants actuellement. Ouais. Donc au milieu, tu mets...
Et le petit prodige au milieu, là ?
Non, mais ça, c'est encore, c'est que du bénéfice, c'est que du plus. Ça va rapporter encore beaucoup d'argent. Mais quand t'es capable de relancer Cabella, parce que Cabella, j'ai un petit que j'adore, que j'ai vu naître, que tu le vois ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, qui vient dépanner, qui joue pas, qui joue, qui dépanne, et tous les mecs qui rentrent, et après Genesio.
Ouais, mais Genesio, voilà, il faut l'ajouter à la liste.
Mais on est obligé. Non, mais on
des
est obligé.
Mais
quand dans une équipe, tu as ton gardien qui est une référence et que devant, tu as quelqu'un qui est capable de marquer but et qui fait peur, ben, ça donne ce genre de résultat. Et je suis d'accord avec Naïm, en championnat, c'est comme Brest. Brest se transcende et il faut arriver à faire. Brest ne joindra pas les deux. Je pense que Lille sont capables, eux, de récupérer les deux.
Bologne-Lille en Ligue des Champions, c'est mercredi. Ouais, c'est... Un dernier mot sur le LOSC et après on monte d'un cran.
Et ben c'est presque là que c'est le plus difficile parce qu'après avoir battu le Real, l'Atlético et fait nul contre la Juve, Lille fait Bologne et Sturmgrass. C'est-à-dire que c'est des matchs où on attend qu'ils gagnent, où ils doivent prendre des points.
C'est là où ils deviennent favoris.
Et c'est là où ils deviennent favoris. Et c'est là, et je me demande, puisque en parallèle tu auras Montpellier et je sais plus quelle mauvaise équipe également en Ligue 1, et je me dis. Quelle compétition il va prioriser ? Oui. Est-ce qu'il met le paquet sur le championnat, pour gratter Marseille et aller sur le podium ? Ou est-ce qu'il met encore un coup de collier sur la Ligue d'Esch en se disant il y a un huitième à la clé ?
Ah non, Genesio, c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Après, c'est les joueurs qui décident.
Radio Foot, comme un lundi, on parlait du nord de la France. On va prendre la direction pour bien finir du nord de l'Angleterre.
C'est la meilleure équipe, évidemment. Ball over, another clever one, and what a touch from Mo Salah! Liverpool back level again. It's goal number 11 for Salah. Mo Salah to put Liverpool in front. 3 out of 3.
Eh bien, nous sommes bientôt en décembre et je n'ai encore reçu aucune offre de la part du club. Je suis donc probablement plus sur le départ que sur le fait de rester. Je suis déçu, mais on verra. Je suis à Liverpool depuis tellement d'années. Il n'y a aucun autre club comme celui-là. Mais je vous le répète, je n'ai encore reçu aucune proposition de leur part. Je ne vais pas prendre ma retraite bientôt. Je suis concentré sur la saison et j'espère remporter la Première Ligue. Et j'espère aussi la Ligue des Champions. Je donne le meilleur de moi. Voilà, c'est décevant, mais nous allons voir.
Les Reds sont irrésistibles, même si certains d'entre eux sont dans l'incertitude concernant leur avenir. Succès 3-2 ce week-end à Southampton, avec notamment un doublé pour Mo Salah que vous venez d'entendre. 12 buts en 18 apparition pour l'Égyptien, mais toujours pas de nouveau contrat pour la légende d'Anfield, Van Dijk, le capitaine, et Trent Alexander-Arnold, deux autres légendes, sont dans le même cas. D'abord le sportif, 8 points d'avance au classement, Marc Libra, devant un Manchester City en crise, on en parle juste après. Est-ce qu'après 12 journées, vous avez enfin l'envie de commencer à vous enflammer pour Liverpool, qui ne gagne pas la Première Ligue si souvent? Donc là, on a envie de, peut-être de...
Je peux m'enflammer par rapport à Mo Salah qu'on a retrouvé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Mo Salah à ce niveau-là.
Exact.
Il est vraiment très impressionnant. Et après, on va se rappeler qu'en Première Ligue, il y a encore quelques... Il n'y a pas si longtemps que ça, moins de 5 ans, moins de 3 ans, Liverpool pouvait posséder 9 ou 10 points d'avance au mois de mars ou avril. Et à l'arrivée, ça a fini sur la dernière journée. Donc, le Boxing Day va peut-être rebattre un petit peu les cartes. Mais aujourd'hui, Liverpool est... est vraiment en train de mettre un gros coup d'accélérateur, mais je ne suis pas serein. Et ils le savent, ils l'ont vécu. Hein. Et, on sait, et la Première Ligue nous a permis des glissades de Liverpool, on va se rappeler Steven Gerrard, plein de choses qui vous disent qu'aujourd'hui, même s'il y avait 9 ou 10 points, le championnat n'est pas joué parce que vous savez très bien qu'il y aura un rebond et il va se passer des choses après.
Je pense que tout le monde va être un petit peu d'accord et tempérer mon enthousiasme ou celui des fans des Reds.
Non, 8 points, il a raison, c'est pas assez, surtout qu'on est encore au mois de novembre. Et puis,
alors, on se rend compte ce week-end, hein, c'est ça.
Et puis surtout, l'effectif, alors on dirait pas en ce moment, puisqu'il y a la moitié de l'équipe à l'infirmerie, surtout derrière, mais l'effectif, il est en faveur de Manchester City, au moins sur la profondeur de banc, mais il y a quelque chose qu'a Liverpool et que n'a pas Manchester City, en tout cas sur ce début de saison, c'est le caractère, c'est le tempérament. Regardez quand ils sont en difficulté, parce qu'ils sont aussi en difficulté.
Comme
Liverpool,
dans
certains matchs, mener 2-1, c'est difficile. Ils t'inversent la tendance. C'est-à-dire que là où Manchester City, quand il est en difficulté, craquera pas toute la saison, mais actuellement il craque, bah Liverpool, quand il est en difficulté, il craque pas. Il est capable de te sortir à chaque fois un mec de Zoblaï, il marque un but, bah t'attends pas quand t'as Diaz, Núñez, Salah, Gakpo, tu te dis pas c'est le milieu de terrain qui a marqué. Eh ben si, et c'est là où ils font la différence Liverpool par rapport à ce qu'ils faisaient l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est un effectif qui est plus restreint mais peut-être plus complet. Il y a une grosse mentalité, ne perdent pas de points, ça fera peut-être la différence. En tout cas, ça mettra plus de pression sur City en cas de mano à mano en avril, en mars.
Est-ce que c'est pas bizarre dans ce contexte d'avoir 3 légendes en fin de contrat et dans l'incertitude Jérémy Gaymour
quand même?
Non, pour Mo Salah,
Trent Alexander-Arnold.
Bon, en tout cas, ce sont les cadres des récents succès de Liverpool.
Salah, je veux bien. Trent,
c'est le titulaire.
C'est l'équipe
de Klopp.
Très important. Non, très important.
Légende.
Très important.
La remontada contre le Barça, ça porte sa griffe
quand même. Déjà, et puis en plus, c'est un Anglais. Les clubs anglais sont assez fiers.
Oui, c'est un gamin du club.
C'est un gamin du club. C'est quand il est international quand même. On parle de. Bah oui, il a gagné la Ligue des Champions. Non, il fait partie. Allez, voilà, c'est pas la grande.
Il fut un temps où les trois avaient la coupe de cheveux de Sheriff Gaymour, donc vous n'allez pas nous l'énerver. Aujourd'hui, il n'y a plus que Van Dijk qui reste capillairement cohérent. Vous prolongez lequel, Sheriff?
Non, mais ce qui se passe, c'est que bon, déjà, on est à Liverpool, donc Liverpool, c'est un club très très familial, c'est à la vie à la mort pour parler très très vite. En général, en Angleterre, quand on a fait l'essentiel de sa carrière à Liverpool, c'est très dur d'aller dans un autre club. C'est déjà arrivé, mais c'est quand même. Pas très commun. La deuxième chose, c'est que là, il y a une opportunité en Arabie Saoudite. Je ne dis pas qu'ils vont en Arabie Saoudite à la fin de la saison, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement par là
c'est
que...
C'est un acteur sur le marché.
Voilà, c'est une opportunité qui existe aujourd'hui. Elle n'existera peut-être pas dans 2 ans. Donc, tous les grands joueurs qui ont dépassé la trentaine y réfléchissent. Et puis, troisièmement, on est dans le cadre normal des renégociations à la hausse.
Oui, mais trois joueurs de ce calibre six mois de la fin de leur contrat en même temps, c'est surprenant quand même.
Mais ça va, non, mais ça va se gérer. Le nouveau coach est arrivé, ça risque de se gérer. Je ne me fais pas de soucis pour eux. Mais après, par rapport à Mo Salah, il a quoi, 31 ans?
Plus.
Plus.
Oh, il a
33 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'il est capable de faire, il n'y a pas une place pour le Ballon d'Or dans quelques mois? Moi, je le mets Ballon d'Or. Pour moi, il est déjà sur le podium.
Il faut qu'il
continue comme ça. Aujourd'hui, peut-être que Mo Salah, une période, il aurait mérité. Il ne l'a pas eu parce qu'il y avait deux monuments qui s'appelaient Messi et Cristiano Ronaldo. Ouais. Peut-être que, à 33 ans, peut-être qu'il peut être capable.
Ans.
Voilà.
32 ans, je viens de vérifier.
Voilà. Donc, ça va être possible.
On va rester là sur Liverpool. Parce que
le Ballon d'Or, c'est pas ça là, c'est France Football.
Oui, non, mais.
C'est un autre débat.
Parce que moi, j'ai une autre vision avec Ribéry.
Rouge vif pour Liverpool, en attendant peut-être le feu vert pour les prolongations de contrat, dont celle de Mo Salah, ciel pâle, en revanche, au-dessus de Manchester.
And Tottenham Hotspur have just inflicted even more damage on an already gaping wound that is opening up.
But I'll tell you something.
Cinquième défaite de rang pour Manchester City, toutes compétitions confondues. On pensait les équipes de Pep Guardiola particulièrement sont richissimes, ultra fournies, ultra compétitifs. Manchester City immunisé contre ce type de crise. Et pourtant, ce week-end, Tottenham a enfoncé le clou. Succès 4-0 sur le terrain des Citizens. Est-ce que c'est grave, Docteur Libra?
Ce qui est grave pour moi, c'est qu'on a l'accumulation de matchs internationaux et qu'aujourd'hui, les mecs, ils sont rincés, ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire que quand on se permet prendre Kevin De Bruyne, on n'en peut plus. Et eux, ils vont se taper encore cette Coupe du Monde des clubs qui ne sert à rien. Donc, les mecs, ils sont rincés. Kevin De Bruyne, Foden par rapport à l'année dernière, mais c'est pas possible. Et il y a une image qui est très importante, je m'attache souvent aux attitudes. Je regarde le match, je vois le quatrième but. Quand je vois Kyle Walker, qui est un des mecs les plus rapides, et il s'est fait prendre 2-3 mètres. C'est-à-dire que là, on n'y est plus. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'essence dans le moteur.
Il n'est pas tout jeune, hein, on parlait d'âge pour ça. Là.
Il va à plus de 30 km/h, le garçon, âge. Là, je vous invite sur le dépassement de fonction du milieu gauche qui accélère. Il a 2 mètres de retard, il lui met 2 mètres d'avance. Kyle Walker, ils en ont assez.
Donc pour vous, c'est purement physique.
Ils sont rincés.
Il n'y a pas de crise plus profonde.
Alors les blessés, non mais Stone se fait mal. Ils ont perdu leur joueur. Le meilleur joueur du monde, il était devant la défense. Il n'y est plus.
Rodri, le ballon d'or, qui
d'ailleurs a été présenté, les mecs ils sont dégoûtés, ils l'ont bien vu, mais ils l'ont vu habillé avec un ballon d'or là, parce que plusieurs semaines ils ne vont pas l'avoir. Et on se rend compte que quand il n'est pas là, c'est compliqué.
Non,
et si tu n'as pas tes joueurs cadres, si tu as trop de blessés, c'est bien de mettre des gamins. Il a lancé beaucoup de gamins. Et là, ça ne fait plus la diff, il n'y arrive plus. Donc pour moi, il n'y a pas de crise, c'est juste que l'accumulation des matchs aujourd'hui, c'est fini.
Rodri, ballon d'or en béquille, porte-parole des joueurs qui pensent qu'il joue trop, tout comme De Bruyne, un autre joueur de Manchester City.
Pour compléter ce que vient de dire Marc, n'oubliez pas, avec Pep Guardiola, il y a très peu de turnover.
Aussi.
Il fait la saison sur à peu près 14 joueurs, pas plus. C'est toujours les mêmes qui jouent, il y a très peu de remplacements. On est dans le football moderne, on est en train d'exténuer les joueurs, on a le droit à 5 remplacements. Lui, il en fait 2 maximum. On est bien d'accord.
Regardez la semaine dernière. Ça, c'est pas la faute des calendriers. C'est aussi lui qui décide.
Ah non, mais là, on parle de la gestion. On parle de la gestion des... Comment ça s'appelle ? Ensuite, dans la gestion, je dirais, entre guillemets, psychologique de Pep Guardiola, n'oubliez pas qu'il y a des joueurs qui disparaissent de son 11 type, des fois, sans qu'on sache pourquoi. Regardez, Grealish, il n'était pas blessé. Il est sorti, on a mis Doku. Résultat, il a perdu Doku et Grealish. Stones, on le croit installé au bout d'un moment devant la défense ou en défense, finalement, il disparaît. Guardiola prend la place de Hake.
Et... Non, mais là, c'est des choix par dépannage. Tu n'as plus le choix. Là.
Non, pas toujours par dépannage. Pas toujours par dépannage. Grealish, il a perdu. Il n'était pas blessé l'année dernière.
Ce qui est frappant sur cette séquence de 5 défaites consécutives, au-delà des blessures, des erreurs défensives, tout a été dit très bien. Il y a quand même quelque chose sur cette séquence de 5 matchs. C'est que mentalement, je ne vois pas de leader. Je ne vois pas de leader sur le terrain. Kyle Walker, et encore, il est plutôt sur une patte. Il n'y a pas Dias, il n'y a pas Rodri, il n'y a plus De Bruyne. En tout cas, pas titulaire. Et surtout, chez Guardiola, j'ai l'impression de voir le comportement, le discours d'un entraîneur qui est résigné. Je ne sens pas réellement de motivation. J'aimerais le voir un peu gueuler, quitte à s'en prendre à l'arbitre, à s'en prendre à l'équipe d'en face, faire du Mourinho, j'aimerais le voir soulever une table. J'ai l'impression qu'il subit ce qui se passe et je ne crois pas que ce soit un super message envoyé.
Naïm n'a pas tort,
mais en plus, il vient de prolonger pour 2 ans de plus, alors que moi, j'étais persuadé qu'il ne prolongerait pas.
Il y avait pas mal d'incertitudes, donc peut-être qu'effectivement...
Moi, j'étais persuadé...
Un 18 titres pour lui, quand même. 18 titres à deux
pays.
Je sais, bien sûr.
J'ai le droit de conclure.
Bonsoir.
Merci, Marc, Chérif et Naïm.
Salut.
À demain avec Annie.